Chapitre 20. Myriam savait reconnaître les gens abîmés par la vie. On avait tendance à parler de regards tourmentés, d'air méfiant, ce genre de choses. Il y avait effectivement souvent de cela, mais selon Myriam, c'était surtout une question de gestuelle, de façon de se mouvoir. Elle ne le voyait pas chez elle-même, bien sûr, mais elle le sentait. Elle avait beau avoir vieilli, être lourde et lente, elle se déplaçait toujours sur la pointe des pieds, toujours sur le qui-vive, prête à réagir en cas de décharge d'adrénaline. Myriam tomba sur Laura en pleine esclandre devant la laverie et décida de saisir sa chance. Elle ramassa le sac de Laura, s'excusa auprès de la patronne exaspérée et entraîna la jeune fille à l'écart. Elle lui proposa d'aller prendre une tasse de thé sur sa péniche, mais Laura refusa, ce qu'on pouvait comprendre compte tenu des circonstances. Après tout, la dernière fois qu'elle s'était approchée du canal, elle s'était retrouvée dans un sacré pétrin. À la place, elles allèrent chez Laura. Un calvaire, pour le dire gentiment. Laura habitait un minuscule appartement au 7e étage d'une tour HLM de Spafields. L'ascenseur étant hors service, il fallait se résoudre à prendre l'escalier. Trempée de sueur, le souffle court, Myriam dut faire plusieurs pauses. À un moment, elles croisèrent des petits cons qui s'amusèrent de son état en faisant des blagues à Laura. « Fais gaffe, on dirait que ta mamie se tape un infarctus !» Pourtant, lorsqu'elle atteignit enfin le 7e, Myriam trouva presque que le résultat valait bien tous ses efforts. Une brise soufflait là-haut, un air pur à mille lieues de la puanteur du canal, et la vue, quelle vue ! La flèche de Saint James au premier plan, derrière les tours massives du domaine de Barbican et la magnificence sereine de la cathédrale Saint-Paul. Plus loin encore, les façades scintillantes de la City. Londres dans toute sa splendeur. Une splendeur qu'on avait tendance à oublier à force de vivre le nez collé au sol. Laura ne parut rien remarquer. Elle devait avoir l'habitude. Myriam nota qu'elle semblait souffrir, car elle boitait de plus en plus à chaque étage. Alors qu'elles arrivaient devant la porte de l'appartement, Myriam lui demanda ce qui lui était arrivé. Une question polie pour laquelle elle s'attendait à une réponse banale. Une cheville foulée, une chute lors d'une soirée trop arrosée. Au lieu de quoi, elle eut droit à un récit si mélodramatique qu'il en était à peine croyable. Des parents ignobles, un terrible accident, une gamine presque abandonnée à son sort. Myriam fut envahie d'une profonde empathie pour elle. Après un tel départ dans la vie, il n'était pas étonnant que Laura soit quelqu'un d'aussi étrange. L'empathie s'accrut encore quand elle vit l'état du misérable logement dans lequel vivait la jeune fille. Des meubles laids et bon marché, éparpillés sur une moquette synthétique grise, des murs jaunis par la nicotine. C'était là le foyer d'une petite qui manquait de tout. On n'y trouvait pas de jolis plaids ni de coussins multicolores. Aucune décoration, aucun trophée, pas de livres sur les étagères, pas de posters au mur. Absolument rien, à l'exception d'un unique cadre photo représentant une fillette avec ses parents. Une bouffée d'air frais dans cette atmosphère morne. Jusqu'à ce qu'on s'approche, comme le fit Myriam en enjambant une pile de vêtements sur le sol, pour découvrir, horrifiée, que l'image avait été sauvagement raturée. La fillette avait la bouche ensanglantée et des croix à la place des yeux. Quand Myriam se retourna, Laura l'observait avec un air bizarre qui lui flanquait la chair de poule. « Eh bien, on le prend, ce thé ?» dit la visiteuse avec un enthousiasme forcé. Une fille abîmée par la vie, une fille étrange. Oui, qui pouvait dire ce qui se passait réellement derrière de si jolis yeux ? Dans la cuisine, une fois le thé fini dans un silence de plomb, Myriam décida de se lancer. « Je vous ai déjà vu, vous savez. » Dans sa poche, elle tripotait la clé, celle qu'elle avait ramassée sur le sol de la péniche, celle avec le porte-clés en forme d'oiseau. Laura la dévisagea, perplexe. « Évidemment que vous m'avez déjà vue. Je bosse à la laverie. » Myriam secoua la tête, un petit sourire aux lèvres. « Pas seulement. Je sais pourquoi vous n'avez pas voulu me suivre jusqu'au canal. » Elle vit la jeune fille passer de l'ennui à l'appréhension. « Ne vous en faites pas, » s'empressa d'ajouter Myriam. « Je suis de votre côté. Je sais que c'est vous que la police a interrogé au sujet de cette affaire. » La mort de Daniel Sutherland. Comment vous savez ça ? Et voilà, le corps de la jeune fille s'était tendu, prêt à bondir. La fuite ou l'attaque ?
C'est moi qui l'ai trouvé, répondit Myriam. Ma péniche est amarrée à quelques mètres de la sienne. La jolie péniche verte avec un liseré rouge. Lorraine, vous avez dû la voir ?
Elle sourit à Laura pour lui laisser le temps de digérer l'information.
C'est moi qui ai trouvé le corps. C'est moi qui ai appelé la police.
Sérieux ? Souffla Laura en ouvrant de grands yeux. Merde alors ! Ça devait être flippant, le voir comme ça au milieu de tout ce sang.
Effectivement.
Myriam repensa à la plaie béante dans le cou de Sutherland, à ses dents blanches. Elle se demanda si, à cet instant précis, Laura convoquait la même image dans son esprit, et si elles étaient ainsi connectées. Elle voulut croiser le regard de Laura, mais celle-ci repoussa sa chaise, se leva et se pencha au-dessus de l'épaule de Myriam pour ramasser sa tasse vide.
Est-ce que vous avez parlé à la police depuis ?
Demanda la jeune fille d'une voix plus aiguë.
Depuis que vous l'avez découvert, je veux dire. Est-ce qu'on vous tient au courant des avancées ? Parce que j'arrête pas de guetter les infos et j'ai l'impression qu'il se passe rien du tout. Alors que ça fait plus d'une semaine maintenant, je crois bien, qu'il a été retrouvé. Alors,
elle se tut. À présent, elle se tenait dos à Myriam et déposait la vaisselle dans l'évier. Son invitée ne répondit pas tout de suite. Elle attendit que Laura se retourne pour parler.
Je vous ai vu partir. La veille du jour où je l'ai trouvé. Je vous ai vu quitter sa péniche.
Laura écarquilla encore les yeux. Et alors ? Répliqua-t-elle avec défiance.
Je suis allée là-bas, c'est pas un secret. D'ailleurs, je l'ai dit à la police, j'ai pas menti.
Je le sais bien. Pourquoi auriez-vous menti ?
Vous n'avez rien fait de mal.
Laura se détourna à nouveau. Elle ouvrit le robinet et se mit à rincer les tasses sous le filet d'eau avec des gestes brusques. Cette image serra le cœur de Myriam. Elle devinait la victime dans chacun de ses tressaillements, dans son corps entier.
« Vous voulez me raconter ce qui s'est passé ? »
demanda-t-elle doucement.
« Vous voulez me raconter ce qu'il vous a fait ?»
Elle retint son souffle, le sang battant à ses tempes. Elle pouvait presque toucher du doigt quelque chose d'important. Une confidence ? Une alliance ? Une amitié ?
« Je suis de votre côté, » répéta-t-elle.
« De mon côté ?» s'esclaffa Laura avec un mépris cassant. « J'ai pas de côté !»
Mais ce n'est pas une fatalité, aurait voulu dire Myriam. Tu pourrais avoir une alliée, nous deux contre tous ceux qui pensent être les seuls à détenir le pouvoir. Nous pourrions leur donner tort. Nous pourrions leur montrer que nous aussi nous pouvons être puissantes. Toi et moi, entre ta tour miteuse et mon canal nauséabond. Nous ne vivons peut-être pas dans des maisons luxueuses, nous n'avons peut-être pas accès aux salons de coiffure hors de prix, aux vacances à l'étranger et aux tableaux de maîtres accrochés au mur. Mais cela ne signifie pas pour autant que nous ne sommes rien.
Il y avait tant de choses que Myriam aurait voulu dire, mais elle devait faire attention et prendre des précautions. Elle ne devait pas se précipiter.
Elle changea de tactique pour tâter le terrain.
Qu'est-ce que vous savez de la famille de Daniel Sutherland ?
Laura haussa les épaules.
Sa mère est morte il y a pas très longtemps. Il m'a raconté que c'était une alcoolique. Il a une tante. Je l'ai rencontrée chez Irène.
Irène ?
Une amie.
Qui est-ce ?
S'enquit Myriam.
Une amie, c'est tout. Ça vous regarde pas.
La jeune fille rit.
Écoutez, c'était sympa de discuter tout ça, mais je crois que...
Moi ? L'interrompit Myriam. Je sais pas mal de choses au sujet de sa famille, et je pense que ça pourrait vous intéresser.
Mais Laura était adossée au plan de travail et se triturait les ongles. Elle ne l'écoutait même pas.
Parce que vous voyez, je pense que c'est peut-être elle, continua Myriam.
Et Laura leva la tête.
Elle ?
Sa tante. Je ne serais pas surprise qu'elle ait quelque chose à voir là-dedans.
Dans quoi ?
S'étonna Laura, perplexe.
Dans sa mort.
Laura éclata d'un rire bref.
Sa tante ?
Myriam se sentit rougir.
Il n'y a pas de quoi rire, rétorqua-t-elle d'un ton indigné. Je l'ai vue là-bas, elle aussi. Je l'ai vue aller sur sa péniche comme je vous ai vu, vous. Et je pense qu'il s'est passé quelque chose entre eux.
Désormais, Laura l'observait, les sourcils froncés. Myriam poursuivit.
Je pense, et c'est ça le plus important, je pense que son mari, enfin son ex-mari, je veux dire Théo Meyerson, je pense qu'il essaie d'étouffer tout ça parce que...
Myriam continuait de parler, mais elle voyait dans le même temps la jeune fille passer du scepticisme à l'incrédulité, puis à la suspicion. Et elle devina qu'elle était en train de perdre sa confiance. Comment cette gamine pouvait-elle être aussi bornée ? Elle aurait au moins pu comprendre qu'il était dans son intérêt de désigner un autre coupable. Il était pourtant évident que la théorie de Myriam lui rendrait service, non ?
Ça semble peut-être un peu tiré par les cheveux, dit enfin Myriam. Mais si vous réfléchissez à...
Laura lui sourit, non sans compassion.
Je commence à piger. Vous faites partie de ces gens qui aiment bien se mêler de tout, c'est ça ? Vous êtes seul, vous vous ennuyez, vous n'avez pas d'amis, et vous avez envie qu'on s'intéresse à vous. Et vous pensez que je suis comme vous ? Eh bien, vous vous trompez. Désolée, mais j'ai rien à voir avec vous.
Laura, reprit Myriam en levant la voix, désespérée.
Vous ne m'écoutez pas. Je crois que...
Je m'en fous de ce que vous croyez. Désolée, mais je pense que vous êtes tarée.
Qu'est-ce qui me dit que vous ne mentez pas depuis le début, d'ailleurs ? Qu'est-ce qui me dit que vous m'avez vraiment vue sur la péniche ? Ou que c'est vraiment vous qui avez découvert le corps ?
Peut-être que c'est pas vrai. Peut-être qu'il était encore en pleine forme quand vous êtes entrée.
Peut-être que c'est vous qui l'avez poignardé.
Laura s'avança brusquement vers Myriam, sa bouche toute rouge, grande ouverte.
« D'ailleurs, je ferais peut-être mieux d'appeler la police »
s'écria-t-elle avant de se mettre à rire et à sautiller autour de la table en mimant un coup de téléphone.
« Au secours, venez vite, il y a une folle dingue qui s'est introduite chez moi, une hobbit psychopathe !»
Elle jeta la tête en arrière et hurla de rire telle une forcenée, puis se mit à danser, trop près de Myriam, beaucoup trop près. La femme se leva tant bien que mal et chancela en arrière pour lui échapper.
« Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous ?»
cria Myriam. La fille continua de ricaner comme une maniaque, perdue dans son monde, le regard dément, ses petites dents blanches pointues brillant dans sa bouche rouge. Myriam sentit les larmes lui piquer les yeux. Il fallait qu'elle s'en aille, qu'elle sorte de là. Le rire affreux de Laura encore dans ses oreilles, elle s'extirpa de l'appartement avec autant de dignité que possible, parcourut la passerelle du 7e et descendit péniblement les innombrables marches, les jambes aussi lourdes que son cœur. Le temps d'arriver chez elle, Myriam était en larmes. Bien sûr, c'était une réaction un peu excessive face à la cruauté d'une inconnue, mais ça n'avait rien d'inhabituel pour elle. Myriam était hypersensible à la méchanceté, elle le savait, et connaître ses faiblesses ne les faisait pas disparaître. Elle avait perdu le don de se faire des amis quand elle était petite. Une fois disparue, c'était une compétence difficile à recouvrer. Son absence était un cercle vicieux. Plus on s'efforçait de se faire apprécier des autres, moins on avait de chances que cela fonctionne. Comme avec la solitude, la plupart des gens devinaient presque aussitôt que la personne devant eux avait un problème, et ils gardaient leur distance. Le pire n'était pas ce que Laura avait dit à la fin, les railleries, les moqueries sur son apparence. Non, le pire, c'était ce qu'elle avait dit juste avant. Vous êtes seule, vous vous ennuyez, et vous pensez que je suis comme vous. Et elle avait raison. Myriam pensait que Laura était comme elle. C'était ça le pire. Laura l'avait vue telle qu'elle était. Elle l'avait comprise. Puis elle l'avait rejetée. Dans la cabine de sa péniche, côté chambre, Myriam gardait un exemplaire de celle qui s'est enfuie, dont elle avait souligné les passages troublants qui trahissaient des similitudes avec ses propres mémoires. Vers la fin du roman, les pages étaient chargées d'encre bleue. Là où elle avait griffonné des phrases qu'elle seule aurait été capable de relire, des diatribes contre Meyerson et contre la façon dont il avait perverti son histoire, contre tout ce sur quoi il avait tort et tout ce sur quoi il avait raison. Certains détails peuvent changer le cours d'une vie. La terrible épreuve qu'avait vécue Myriam, par exemple, avait commencé par un détail. Le moment où Lorraine avait dit qu'elle ne se sentait pas capable de supporter l'haleine fétide de M. Picton pendant 2 heures, que la biologie de toute façon c'était nul et que c'était les soldes chez Miss Selfridge. Myriam, elle, ne voulait pas sécher les cours. Elle avait peur d'avoir des ennuis.
« Arrête de faire ta mouviette !» lui lança Lorraine.
Myriam n'avait pas envie de se disputer. Les deux filles venaient juste de se réconcilier après leur dernière querelle au sujet d'un garçon, Ian Gladstone. Alors que Myriam avait le béguin pour lui depuis une éternité, Lorraine et lui s'étaient embrassés à une soirée
et Myriam avait fini par la prendre. « Désolé, » avait répliqué Lorraine, « mais il ne s'intéresse pas à toi. Je lui ai demandé si tu lui plaisais et il m'a dit non. Ce n'est pas ma faute s'il m'a choisi. » Elle ne s'était pas adressé la parole pendant une semaine. Mais ce n'était pas comme si elles avaient d'autres amis, et de toute façon, Ian Gladstone n'en valait pas la peine.
« Il embrasse comme une machine à laver !»
s'était moquée Lorraine en riant, avant de faire tourner sa langue dans l'air. Et donc, un détail. À la ferme, Jazz roula un joint. Il s'était installé sur le canapé défoncé dans la pièce principale, les jambes pliées, et comme le meuble reposait directement sur son assise, il avait les genoux qui remontaient au niveau de son oreille. Il lécha l'extrémité du papier à cigarette de sa grosse langue, roula avec précaution le joint entre son pouce et son index, puis l'alluma et prit une bouffée avant de le tendre à Lorraine. Celle-ci était assise à l'autre bout du canapé, mal à l'aise, tandis que Myriam hésitait sur le seuil de la pièce. Lorraine tira une fois, deux fois, puis agita le pétard à l'attention de Myriam, qui secoua la tête. Lorraine écarquilla les yeux pour lui dire « Allez !» Mais Myriam fit de nouveau non de la tête. Jazz se leva, reprit le joint et s'éloigna d'un pas lent dans les méandres de la maison, à l'opposé de la porte d'entrée.
« Quelqu'un veut une bière ?»
demanda-t-il, au loin.
« On s'en va !»
siffla Myriam à Lorraine.
« Je veux partir d'ici. »
Lorraine acquiesça. Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre sale en direction de la voiture, puis reporta son attention sur Myriam.
« Je peux peut-être lui dire qu'on doit retourner au lycée ?»
suggéra-t-elle.
« Non, on n'a qu'à. »
Jazz revint, trop vite, deux bières à la main. « Je crois, » commença-t-il sans les regarder, « que Lorraine et moi, on va passer un petit moment tête à tête. » Lorraine rit.
« Non, c'est bon. En fait, faut qu'on y aille. »
Sans crier gare, Jazz posa les bouteilles par terre, la rejoignit en deux pas et lui envoya un coup de poing dans le cou. Myriam sentit ses jambes se transformer en gelée. Elle n'arrivait plus à les contrôler. Elle tenta de s'enfuir, mais elle n'arrêtait pas de trébucher, et Jazz la rattrapa avant qu'elle ait pu atteindre l'entrée. Il la saisit par sa queue de cheval et tira en arrière si violemment qu'il lui arracha les cheveux. Elle tomba. Jazz la ramena vers le fond de la maison, la traînant sur le plancher crasseux jonché de paquets de cigarettes et de crottes de souris. Lorraine était étendue par terre, ses yeux paniqués, grands ouverts. Un petit râle s'échappait de ses lèvres à chaque respiration. Myriam l'appela, mais Jazz la prévint que si elle ouvrait encore une fois la bouche, il allait la buter. Il emmena Myriam dans une autre pièce, vide, tout au fond de la maison, et la jeta au sol. « Attends-la » ordonna-t-il. « Ça ne prendra pas longtemps. » Puis il referma la porte et la verrouilla. « Qu'est-ce qui ne prendra pas longtemps ?» Elle tourna la poignée, tira sur la porte, poussa, se jeta dessus, essayant désespérément de l'enfoncer. « Qu'est-ce qui ne prendra pas longtemps ?» Elle n'en était pas sûre, mais il lui sembla entendre Lorraine pleurer. « Qu'est-ce qui ne prendra pas longtemps ?» Dans son dos, il y avait une fenêtre à guillotine juste assez large pour elle. Elle était fermée à clé, mais la vitre était vieille et abîmée, du simple vitrage. Myriam retira son t-shirt pour l'enrouler autour de sa main et tenta de casser le verre. Hélas, ses gestes manquaient de conviction. Elle avait peur de faire du bruit, peur de se faire mal. Elle se dit que ce qui l'attendait serait probablement pire qu'une coupure à la main, qu'elle n'avait pas beaucoup de temps, juste le temps que cela prendrait avec Lorraine. Elle frappa une nouvelle fois, plus fort, puis y mit toutes ses forces et son poing transperça la vitre. Un éclat de verre lui déchira l'avant-bras et lui arracha un cri de douleur. Paniquée, elle enfonça son t-shirt dans sa bouche pour étouffer le bruit et resta parfaitement immobile, aux aguets. Quelque part dans la maison, elle entendit quelqu'un bouger, un pas lourd qui faisait craquer le plancher. Myriam retint son souffle. Elle écouta, pria. Elle pria pour qu'il ne l'ait pas entendu. Elle pria pour qu'il ne revienne pas. Encore et encore, les larmes roulant sur ses joues, l'odeur de son propre sang plein les narines, elle pria pour qu'il ne vienne pas la chercher. Il faisait encore jour, dehors. Myriam se précipita d'abord à la voiture, mais il n'avait pas laissé la clé sur le contact. Alors elle s'enfuit en courant le long de la route de terre battue, le sang dégoulinant de sa coupure au bras et de celle qu'elle s'était faite au torse en sortant par la fenêtre. Du sang coulait aussi sur son visage, à cause de la plaie sur son cuir chevelu quand il l'avait traînée par les cheveux. Au bout d'un moment, trop épuisée pour continuer sa course, elle se mit à marcher. Elle semblait encore loin de la route principale. Elle ne se souvenait pas qu'ils avaient mis si longtemps à atteindre la ferme. Elle se demanda même si elle ne s'était pas trompée de chemin. Mais elle ne se rappelait pas avoir croisé la moindre intersection. Il y avait cette route et aucune autre. Cette route qui semblait se poursuivre à l'infini, et personne pour venir à son secours. La nuit était tombée quand elle entendit le grondement du tonnerre. En levant la tête, elle vit le ciel sans nuages et parsemé d'étoiles brillantes et comprit qu'il ne s'agissait pas du tonnerre, mais d'une voiture. Sous l'effet du soulagement, ses genoux se dérobèrent sous elle. Quelqu'un arrivait, il y avait quelqu'un. Une brume de joie emplit son esprit l'espace d'un bref instant, avant que la bourrasque glacée de la peur ne la dissipe. La voiture venait de derrière elle, pas de la route principale, mais de la ferme. Myriam quitta la chaussée en courant. Elle escalada une clôture en fil barbelé, se coupa une énième fois, se jeta dans un fossé. La voiture s'approchait, et Myriam entendit le grincement de la transmission tandis qu'elle ralentissait. Le faisceau des phares illumina l'espace au-dessus d'elle, puis s'éloigna. Myriam resta un long moment allongée dans le fossé. Elle n'aurait su dire combien de temps. Enfin, elle se releva et repassa de l'autre côté de la clôture. La chair de ses bras, de ses jambes et de son torse était lacérée. Ses sous-vêtements trempés d'urine et sa bouche pâteuse de sang. Elle se mit à courir, tomba, se releva, courut de nouveau. Enfin, elle atteignit une station essence. Un employé appela la police. Mais c'était trop tard.